السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر.
J'évoquais Omar radhiyallahu ta'ala anhu dans mes précédents sermons. Je mentionnerai aujourd'hui quelques faits concernant les razouats et les expéditions dans lesquelles il avait participé. Omar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu avait participé dans les batailles de Badr, d'Uhud, la bataille du Fossé et les autres batailles en compagnie du Saint-Prophète Mohammed bissoussa lui. En sus de cela, il avait participé dans d'autres expéditions et il était le chef de certaines de ces expéditions. Les compagnons disposaient de 70 chameaux lors de la bataille de Badr. Trois combattants devaient partager un chameau. Ils utilisaient ce chameau à tour de rôle. Abu Bakr, Omar et Abdurrahman bin Auf utilisaient à tour de rôle le même chameau. Voici le récit du départ du Saint-Prophète Mohammed bissoussa lui pour la bataille de Badr. Il est dit que le Saint-Prophète Mohammed bissoussa lui avait quitté Médine pour arrêter la caravane d'Abu Soufiane qui venait de la Syrie. Quand la caravane des musulmans est arrivée à Zafran, une des vallées de Safra, dans les alentours de Médine, le Saint-Prophète Mohammed bissoussa lui a su que les Qurayshites avait quitté la Mecque dans le but d'aider la caravane commerciale venant de la Syrie. Le Saint-Prophète Mohammed bissoussa lui a demandé conseil à ses compagnons et il les a informés qu'une armée venait à grands pas de la Mecque. Et il leur a demandé conseil. Préférait-il combattre l'armée ou la caravane commerciale? Un groupe parmi eux a répondu qu'il préférait combattre l'armée Qurayshite. Selon un autre récit, certains auraient déclaré « Si vous aviez évoqué le combat, eh bien, nous nous serions préparés à nous battre. Nous sommes sortis pour intercepter la caravane commerciale. » Selon un autre récit, ils auraient déclaré « Ô envoyé d'Allah, il est préférable d'arrêter la caravane commerciale et de laisser l'ennemi. » Le visage du Saint-Prophète Mohammed bissoussa lui a changé en entendant ces propos. Abu Ayyub déclare que le verset suivant a été révélé en raison de cet incident. Il est dit dans ce verset « Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqi wa inna fariqam min al-mu'minina lakarihun » À savoir, tout comme ton Seigneur t'a fait sortir de ta maison pour une bonne cause, alors qu'un groupe de croyants y répugnait. Abu Bakr s'est mis debout en cette occasion. Il a pris la parole et il a prononcé un très bon discours. Ensuite, Omar s'est mis debout. Il a pris la parole et il a prononcé un très bon discours lui aussi. Ensuite, Miqdad s'est mis debout. Il a déclaré, « Ô envoyé d'Allah, obéissons à l'ordre que Dieu vous a donné. Nous sommes avec vous. » Par Allah, nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et nous n'allons pas répondre « Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna la qaidun » c'est-à-dire « Vois et ton Seigneur est combatté, nous allons nous asseoir ici. » Miqdad a déclaré « Nous sommes avec vous et nous allons combattre à vos côtés tant que nous sommes en vie. » Ibn Abbas relate que lorsque les musulmans ont fait des prisonniers lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abu Bakr et à Omar « Quelle est votre opinion à propos de ces prisonniers ?» Abu Bakr a répondu « Ô prophète d'Allah, ce sont nos cousins et nos parents. Je pense que si vous leur prenez une rançon, ce sera une source de force pour nous contre ces mécréants, et il se peut qu'Allah les guide vers l'islam. » Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Ô Ibn Khattab, quelle est ton opinion à ce sujet ?» Omar a répondu « Non, au messager d'Allah, par Allah, mon opinion est différente de celle d'Abu Bakr. Selon moi, vous devriez nous les remettre et nous allons devoir leur trancher le cou. Confiez Aqil à Ali pour qu'il le tue et confiez-moi un tel qui est apparenté à moi et je le tuerai. Ils sont tous les chefs des infidèles », a déclaré Omar. Le saint prophète Mohammed a préféré l'opinion d'Abu Bakr. Omar Adonho déclare « L'envoyé d'Allah n'a pas accordé priorité à mon opinion. Quand je suis retourné le lendemain, le saint prophète Mohammed et Abu Bakr étaient assis et ils pleuraient. J'ai demandé au messager d'Allah, dites-moi ce qui vous fait pleurer, vous et votre compagnon. Si je dois pleurer, eh bien je vais pleurer moi aussi. Sinon, je vais faire semblant de pleurer. » Le saint prophète Mohammed a répondu « Je pleure sur la punition qui m'a été montrée à l'égard de ses compagnons qui m'ont suggéré de prendre une rançon. Cette punition est plus proche que l'arbre qui se trouve là devant moi. » Le saint prophète a indiqué l'arbre qui était proche de lui. Sur ce, Allah a révélé ce verset « Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard » à savoir qu'il ne sait pas un prophète qu'il ait des captifs avant qu'il n'ait pris part à une bataille régulière dans le pays. Et deux versets plus loin, il est dit « Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba » « Mangez donc de ce qui est licite et bon, de ce que vous avez gagné comme butin. » Ainsi donc, Allah leur a rendu licite le butin. Ce hadith est tiré du recueil de Muslim. Mais les propos du début de ce hadith, notamment le fait que le saint prophète Mohammed et Abu Bakr pleuraient, et les versets coraniques qui ont été mentionnés par la suite, tout cela en rend ambigu tout le récit. Les faits ne sont pas clairs dans ce hadith. En tout cas, la majorité des compilateurs des recueils d'histoire et de sirah ont relaté ce hadith en le considérant authentique. Les exégètes et les compilateurs de sirah ont considéré que ce hadith est authentique et ils l'ont mentionné. Et il semblerait qu'Allah était en colère contre la décision de prendre une rançon des prisonniers de la bataille de Badr et qu'Allah appréciait davantage l'opinion de Omar. Les biographes de Omar Aradutalanho consignent un chapitre séparé dans lequel il évoque les injonctions coraniques révélées sur l'opinion de Omar. Et il mentionne aussi cette opinion de Omar sur les prisonniers de la bataille de Badr et le fait qu'Allah avait préféré son opinion. Mais ce récit est assez vague. Comme je l'ai dit, il n'est pas clair et il semble que les biographes et les commentateurs ont mal compris ce récit. En tout cas, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a commenté à ce propos dans une de ses notes qui n'a pas été publiée. Et dans cette note, il réfute ces récits et il semble que son explication semble être correcte. Il semble qu'on a fabriqué ce hadith afin d'élever le statut de Omar radhiyallahu anhu, ou peut-être qu'on n'a pas compris le sens de ce récit. En expliquant le verset 68 de la sourate Al-Anfal, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare que la coutume suivante était en vogue à l'Arabie avant l'avènement de l'islam. Et il est dommage que cette pratique est toujours en vogue dans certaines parties du monde. On capture des prisonniers qui sont réduits en esclavage même s'il n'y a pas de bataille, s'il n'y a pas de combat. Ce verset abroge cette pratique affreuse et ordonne explicitement que ce n'est qu'en état de guerre et après une bataille que les soldats ennemis peuvent être faits prisonniers. Il n'est pas permis de prendre des prisonniers s'il n'y a pas de combat. Hazrat Muslim Maud explique que ce verset a été mal interprété. On relate que lorsque les musulmans ont capturé certains prisonniers de la Mecque lors de la bataille de Badr, le saint prophète, paix soit sur lui, a consulté ses compagnons sur le traitement que ces prisonniers méritaient. Omar était d'avis qu'ils devaient être exécutés. Et Abu Bakr, quant à lui, était d'avis que ces prisonniers devaient être libérés contre le paiement d'une rançon. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui appréciait l'opinion d'Abu Bakr. Dans le verset 68 de la sourate Al-Anfal, il est dit qu'il n'est permis à aucun prophète de prendre des prisonniers sans livrer une bataille régulière. Hazrat Muslim Maud explique que l'opinion d'Abu Bakr était différente de celle de Omar radhiyallahu anhu. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a apprécié l'opinion d'Abu Bakr et il a libéré ses prisonniers contre le paiement des rançons. Mais après la révélation de ce verset, on aurait dit que Dieu n'avait pas apprécié l'action du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et que les prisonniers auraient dû être tués et non rançonnés. Ceci est tiré d'un commentaire de Tabari. Le Muslim Maud explique que cette interprétation est erronée. De prime abord, Dieu n'avait pas émis d'ordre interdisant la libération de prisonniers contre rançon. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne pouvait être blâmé pour avoir accepté les rançons. Deuxièmement, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait auparavant accepté la rançon de deux personnes à Nakhla et il les avait libérées et Allah n'avait pas réprouvé cet acte. Troisièmement, deux versets plus loin, Dieu a rendu la consommation des butins licites et purs pour les musulmans. Personne n'aurait pu imaginer que Dieu ait réprouvé le fait que le saint prophète, paix soit sur lui, ait accepté des rançons. Ainsi, Dieu a rendu légitime et pur l'argent qu'il a gagné. Cette interprétation est donc tout à fait fausse. L'interprétation correcte est que ce verset énonce une règle générale selon laquelle les prisonniers ne peuvent être capturés que s'il y a une bataille régulière et quand l'ennemi est vaincu suite à des attaques violentes. Alama Imam Razi et Alama Shibli Nourmani, le biographe renommé, sont parmi les commentateurs du Saint-Coran qui partagent la même position énoncée par le Muslim Maoud. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab explique « Lorsque le Saint-Prophète, paix soit sur lui, est retourné à Médine, il a demandé conseil sur ce qu'il fallait faire des prisonniers. » La pratique générale en Arabie était d'exécuter des prisonniers ou d'en faire des esclaves permanents. Cependant, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était opposé à des mesures aussi dures. De plus, aucune injonction divine à cet égard n'a été révélée non plus. Abu Bakr a déclaré que, à mon avis, ils doivent être libérés contre rançon, car après tout, ce sont nos frères et nos parents. Qui sait si demain des fidèles de l'islam naissent parmi eux? Cependant, Omar s'est opposé à cette opinion et il a déclaré qu'il ne doit pas avoir de considération de parenté en matière de religion. Ces personnes méritent d'être tuées en raison de leurs actions. À mon avis, ils doivent être tués tous. En fait, les musulmans devraient exécuter leurs proches respectifs de leur propre main. Influencé par sa nature miséricordieuse, le saint prophète Mohammed b. Sassadui a approuvé la proposition faite par Abu Bakr. Il a donc interdit l'exécution de ses prisonniers et il a ordonné que les idolâtres qui paient leur rançon soient libérés. Par la suite, une injonction divine a été révélée à cet effet. Étant donné qu'un commandement divin a été révélé sur le paiement des rançons, tout comme l'a expliqué le deuxième calife, il semble étrange d'utiliser ce hadith comme base pour justifier les pleurs du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et d'Abu Bakr. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab explique « À ce titre, une rançon de 1 000 à 4 000 dirhams a été fixée pour chaque individu en fonction de ses moyens. Et de cette manière, tous les prisonniers ont été libérés. » Il y a aussi des récits au sujet du mariage de Hafsa à la fille de Omar avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le mari de Hafsa avait pris part à la bataille de Badr et à son retour de la bataille, il est tombé malade et il est décédé. Plus tard, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a épousé Hafsa. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Abdullah bin Omar raconte que Hafsa, la fille d'Omar bin Khattab, s'était mariée à Khunais bin Hudhaifa Sahami. Et il était l'un des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il a participé à la bataille de Badr. Il est décédé à Médine après la bataille de Badr. Omar a relaté « J'ai rencontré Othman bin Affan et je lui ai parlé à propos de Hafsa. Et je lui ai dit que je peux lui offrir sa main en mariage. » Othman a répondu, « Je vais réfléchir à ce propos. » Omar déclare, « J'ai attendu pendant plusieurs jours. » Ensuite, après quelques jours, Othman a déclaré, « Et j'ai décidé qu'il était mieux pour moi de ne pas me marier pour l'instant. » Omar ajoute, « Je suis parti rencontrer Abu Bakr et je lui ai proposé à la main de Hafsa, ma fille. » Abu Bakr est demeuré silencieux et il n'a rien répondu. Et je ressentais plus de réticence de sa part que chez Othman, a déclaré Omar. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il avait également refusé cette requête. J'ai attendu quelques jours de plus et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé la main de Hafsa en mariage. Et je l'ai marié au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Lorsque le mariage a été consommé, Abu Bakr m'a rencontré et il m'a dit, « Peut-être aviez-vous ressenti quelque réticence de ma part. » Vous aviez peut-être ressenti ce refus de ma part, a dit Abu Bakr. Vous aviez évoqué Hafsa et je n'ai pas présenté de réponse. En fait, je ne vous ai pas répondu parce que je savais que le saint prophète Mohammed, bien sûr, lui avait mentionné Hafsa et je ne pouvais pas révéler ce secret de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, Abu Bakr radhiyallahu anhu savait que le saint prophète Mohammed, bien sûr, lui avait exprimé le souhait de se marier à Hafsa. Abu Bakr radhiyallahu anhu déclare : c'était là un secret du saint prophète Mohammed, peace be upon lui, un secret que je ne pouvais pas révéler. Si le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, avait abandonné cette idée, eh bien, j'aurais certainement accepté cette requête de votre part. C'était là la réponse d'Abu Bakr. Dans son ouvrage « Siratrat Munabiyin », Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur ce mariage. Il déclare « Omar avait une fille du nom de Hafsa. Elle s'était mariée à un compagnon fidèle nommé Khunais bin Huzafa. Ce dernier avait pris part à la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, de son retour à Médine, Khunais est tombé malade et il ne s'est pas rétabli. Quelque temps après son décès, Omar était inquiet concernant le deuxième mariage de Hafsa. Elle avait plus de 20 ans à l'époque. En raison de sa simplicité, Omar a rencontré lui-même Othman bin Affan et lui a parlé à propos de sa fille Hafsa. Il lui a dit qu'elle était veuve et que s'il était intéressé, il pourrait l'épouser. Cependant, Othman a évité le sujet. Par la suite, Omar en a parlé à Abu Bakr. Mais lui aussi est demeuré silencieux et il n'a pas présenté de réponse. Omar était très triste et tout consterné, il s'est présenté au saint prophète Mohammed bissos lui et il lui a tout relaté. Le saint prophète Mohammed bissos lui a répondu « Oh Omar, ne t'inquiète pas. Si Allah le souhaite, Hafsa trouvera un meilleur époux que Othman et qu'Abu Bakr. Et Othman, quant à lui, recevra une meilleure épouse que Hafsa. » Le saint prophète, peace be upon lui, avait dit cela parce qu'il avait déjà l'intention d'épouser Hafsa et d'offrir sa propre fille, Umm Kulthum, à Othman en mariage. Othman et Abu Bakr étaient au courant de cela, c'est pourquoi ils ont rejeté la proposition de Omar. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, a marié sa fille, Umm Kulthum, à Othman. Par la suite, le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, a lui-même envoyé une proposition à Omar concernant Hafsa. Qu'est-ce que Omar aurait pu demander de plus? Il a accepté volontiers cette proposition. Hafsa était mariée au saint prophète Mohammed bin Sosalui au cours du mois de Charban en l'an 3 de l'Hégire. Et il est entré dans la maison du saint prophète Mohammed bin Sosalui. Après ce mariage, Abu Bakr a dit à Omar, « Vous aviez peut-être ressenti quelque tristesse à cause de moi. En fait, j'étais au courant de l'intention du saint prophète Mohammed bin Sosalui, mais je ne pouvais pas révéler son secret sans sa permission. » Si le saint prophète, peace be upon lui, n'avait pas l'intention de se marier à Hafsa, eh bien, je l'aurais épousé très volontiers. Une sagesse particulière en épousant Hafsa était qu'elle était la fille de Omar, qui était considérée comme le compagnon le plus éminent après Abu Bakr. Omar faisait partie aussi des amis les plus intimes du saint prophète Mohammed, peace be upon lui. Ainsi, afin de renforcer davantage ses relations mutuelles et afin de compenser le chagrin de Omar et de Hafsa suite à la disparition prémominée de Khunais bin Huzafa, le saint prophète, peace be upon lui, a jugé approprié d'épouser Hafsa lui-même. Une autre sagesse était que si le saint prophète, peace be upon lui, avait un plus grand nombre d'épouses, les tâches de prédication et de propagation, ainsi que l'éducation et la formation morale, aurait pu être accompli avec une plus grande facilité, sur une plus grande échelle et de manière plus excellente parmi les femmes. Les femmes qui constituent la moitié, sinon plus de la moitié de la population mondiale à certains égards. Voici le récit sur la bataille d'Uhud en référence à Omar radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid a attaqué les musulmans lors de cette bataille. Et ces derniers n'ont pas pu faire face à cet assaut soudain. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit ceci à ce propos. Il déclare que l'armée Quraishite avait à peu près encerclé les musulmans sur les quatre fronts et continué à les écraser par des attaques répétées. Les musulmans auraient pu se ressaisir après quelque temps, mais un guerrier audacieux parmi les Qurayshites nommé Abdullah bin Quma a attaqué Moussa bin Omer, le porte-drapeau des musulmans, et Abdullah bin Quma a tranché la main droite de Moussa bin Omer. Moussa a agrippé le drapeau avec son autre main et il s'est avancé pour affronter Ibn Quma. Mais lors de la deuxième attaque, il a perdu l'autre main. Moussa a joint ses deux bras coupés ensemble dans un effort pour empêcher le drapeau de l'islam de tomber. Et il l'a tenu contre sa poitrine. Sur ce, Ibn Quma l'a frappé une troisième fois et Moussa est tombé au sol en martyr. Un autre musulman s'est immédiatement avancé. Il s'est emparé du drapeau. Et comme Moussa ressemblait au Saint-Prophète, et soit lui en taille et en silhouette, Ibn Quma a pensé qu'il avait tué le Saint-Prophète Mohammed, et soit lui. Il est également probable que Ibn Quma l'a fait par malice ou pour tromper les musulmans, mais en tout cas, lorsque Moussa est tombé en martyr, Ibn Quma s'est exclamé qu'il avait tué le Saint-Prophète Mohammed, et soit lui. En entendant cela, les musulmans ont perdu tout ce qui leur restait de sang-froid et leurs forces les ont complètement quittés. Et de nombreux compagnons ont fui le champ de bataille dans un état de consternation. Les musulmans étaient divisés en trois groupes lors de cette phase de la bataille. Un groupe était composé de ceux qui avaient fui le champ de bataille en apprenant que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait été tué. Ce groupe était le plus petit. Cependant, comme l'évoque le Saint-Coran, en tenant compte des circonstances particulières, ainsi que de la foi et de la sincérité de ses compagnons, Allah leur a pardonné cette action. Le deuxième groupe comprenait ceux qui n'avaient pas pris la fuite, mais qui, après avoir entendu la nouvelle du martyr du Saint-Prophète, paix soit sur lui, avaient perdu leur courage, ou avait senti qu'il était désormais inutile de se battre. Ainsi, il était parti d'un coin du champ de bataille et se sont assis là-bas, la tête basse. Le troisième groupe comprenait ceux qui n'avaient cessé de se battre sans faille. Parmi eux, certains s'étaient rassemblés autour du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils faisaient preuve de bravoure sans précédent, et la plupart combattaient sur le champ de bataille dispersé ça et là. Ces derniers et les compagnons du deuxième groupe continuaient à découvrir que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, était vivant. Et ils se battaient davantage et se rapprochaient du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, à l'image des gens possédés de folie. Une lutte très dangereuse s'ensuivit et ce fut une période de grande épreuve et de tribulation pour les musulmans. Comme mentionné ci-dessus, en entendant la nouvelle du martyr du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, de nombreux compagnons avaient perdu leur esprit et ils avaient jeté leurs armes et ils se sont déplacés d'un côté du champ de bataille. Omar faisait également partie de ces personnes qui avaient sombré dans le désespoir. Ces personnes étaient assises d'un côté du champ de bataille quand un compagnon nommé Anas bin Nadhr Ansari est passé par là. Et en les voyant, il leur a demandé « Que faites-vous ici ?» Ils ont répondu que, étant donné que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, était mort, pourquoi se battre davantage ? Anas a répondu « C'est le moment du combat, afin que nous puissions également mériter la mort que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a méritée. D'ailleurs, quel plaisir tirer de la vie après la disparition du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Sa'd bin Mu'adh avait passé par là et Anas lui a dit, « Ô Sa'd, je sens le parfum du paradis derrière cette montagne. » Anas a pénétré dans les rangs ennemis et il est mort au combat. Après la bataille, on a constaté qu'il avait reçu plus de 80 blessures et personne n'a pu reconnaître son cadavre. Finalement, sa sœur l'a identifié par une marque sur son doigt. Le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait atteint la vallée de la montagne avec quelques compagnons lors de la bataille d'Uhud. Et un groupe d'infidèles a attaqué la vallée, parmi lequel se trouvait Khalid bin Walid. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a prié en ces termes, « Ô Allah, éloigne de nous ces gens !» Sur ce, Omar bin Khattab, avec quelques muhajirines, ont confronté ces polythéistes et ils les ont chassés. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos. Abu Sufyan a pris quelques-uns de ses partisans et s'est dirigé vers le col de la montagne, où les musulmans s'étaient rassemblés. Et se tenant à côté, il a lancé « Ô musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il parmi vous ?» Le saint prophète, paix soit sur lui, a interdit à quiconque de répondre. Et c'est ainsi que les compagnons sont restés silencieux. Ensuite, il s'est enquis à propos d'Abu Bakr et d'Omar, mais conformément aux instructions du saint prophète, personne n'a répondu. Sur ce, Abu Sufyan a lancé d'un ton des plus arrogants. Toutes ces personnes ont été tuées, car s'ils étaient vivants, ils auraient répondu. En entendant cela, Omar n'a pu se retenir et il a lancé « Ô ennemi d'Allah, tu mens, nous sommes tous vivants et Allah va vous déshonorer d'entre nos mains. » Abu Sufyan a reconnu la voix d'Omar. Il a déclaré « Ô Omar, dis la vérité, Mohammed est-il vivant ?» Omar a répondu « Oui, il est vivant par la grâce de Dieu. Il est vivant et il écoute chacune de tes paroles. » Et d'une voix basse, Abu Sufyan a dit « Ibn Quma a menti. » parce que je te considère plus véridique que lui. » Ensuite, Abu Sufyan a lancé à haute voix, « Ô Hubal, exalté soit ton nom. » Les compagnons étaient restés silencieux sur l'instruction du saint prophète Mohammed Pissos à lui. Le saint prophète Mohammed Pissos à lui avait ordonné le silence pour son propre nom, mais il était tout agité d'entendre le nom d'une idole contester le nom d'Allah. Il a dit à ses compagnons, « Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas ?» Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, « Que devons-nous répondre ?» Le saint prophète Mohammed a déclaré, « Proclamez, la grandeur et l'honneur n'appartient qu'à Allah l'exalté. » Abu Sufyan a répondu, « Nous avons Ouzza, mais vous n'avez pas d'Ouzza. » Le saint prophète a demandé aux compagnons d'annoncer, « Ouzza n'est rien, Allah est notre soutien et vous n'avez pas de soutien. » Après cela, Abu Sufyan a déclaré « La guerre est comme un sourd. Parfois, elle monte, parfois, elle descend. » Considérez cette journée comme la réplique de Badr. Abu Sufyan a ajouté « Vous allez trouver sur le champ de bataille des corps qui ont été mutilés. Je n'ai pas commandé cela, mais quand j'ai appris cela, je n'ai pas trouvé cette action de mes hommes déplaisante. » L'année prochaine, nous allons nous retrouver sur le champ de bataille durant les mêmes jours. Conformément aux instructions du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, un compagnon a répondu, « Très bien, nous allons nous revoir l'année prochaine. » Après avoir prononcé ces paroles, Abu Sufyan est parti avec ses hommes et l'armée des Qurayshites a pris la route de la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed Pessoa Salui est rentré à Médine après la bataille d'Uhud, les hypocrites et les juifs ont commencé à se réjouir et ils ont commencé à dire du mal des musulmans. Ils disaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait le royaume terrestre et à ce jour, aucun prophète n'a autant souffert que lui. Lui-même a été blessé et ses compagnons également ont été blessés. Ils ont déclaré que si vos tués étaient restés avec nous, il n'aurait pas subi un tel sort. Omar a demandé au saint prophète Mohammed Pessoa Salui la permission de tuer ces hypocrites. L'envoyé d'Allah a déclaré, « Est-ce qu'ils ne rendent pas témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que je suis le messager d'Allah ?» C'est-à-dire que ces gens récitent la kalima. Omar a répondu, « Certes, mais ils tiennent des propos d'hypocrites. Ils récitent la kalima par peur de l'épée. » Et leur cas est évident à présent. Les paroles de leur cœur sont sorties et Allah a révélé leur animosité. En ce cas, il faut certainement les punir. Le saint prophète Mohammed Pissos à lui a répondu « Il m'est interdit de tuer quiconque porte pareil témoignage. » C'est-à-dire, il m'est interdit de tuer celui qui récite à la kalima. Je poursuivrai ces récits dans le futur, Inch'Allah. Je dois mentionner maintenant quelques personnes qui sont décédées récemment. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Mais avant cela, j'ai aussi une requête de prière à faire. La semaine dernière, j'avais demandé de prier pour les Palestiniens opprimés, bien que le cessez-le-feu a été annoncé. L'histoire nous apprend qu'après un certain temps, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi continue à opprimer ses Palestiniens pour une raison ou pour une autre. Que Dieu ait pitié des Palestiniens et qu'il leur accorde la véritable liberté. Qu'Allah accorde aussi aux Palestiniens des dirigeants qui sont intelligents, qui sont perspicaces et qui sont également capables d'exprimer leur opinion et de faire valoir leurs droits. De même, priez aussi pour les Ahmadis qui sont persécutés dans le monde, en particulier au Pakistan. Priez pour qu'Allah leur accorde sa protection. Le premier défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Qureshi Muhammad Fazlullah Sahib. Il était le Naïb Nazir Shah de Qadian. Il est décédé le 27 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le grand-père paternel de sa mère et le grand-père maternel de son père étaient Hazrat Munshi Mehreddin Sahib. Il était un compagnon du Messie premier Islam. Et l'Ahmadiyya est entrée dans la famille du défunt par son entremise. Munshi Mehreddin fait également partie des contributeurs pour la construction du Minaratul Masi. Après avoir obtenu son diplôme de la Jamia, le défunt a enseigné au sein de la Jamia Ahmadiyya pendant 23 ans et 5 mois. Il avait enseigné le Saint-Coran, la théologie, l'ourdou, la grammaire et la littérature arabe. Il a servi en tout pendant 37 ans et 7 mois. Par la grâce de Dieu, il était un boussi. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et deux filles. Mardoum Saeb, le Nazir Richard, écrit à son sujet que lorsque le défunt enseignait à la Jamia, il était un professeur très bienveillant. Il traitait les étudiants avec beaucoup d'amour et d'amitié, et il était très sympathique à leur égard. Il a fait preuve d'une grande honnêteté et d'une grande dévotion lors de son service. Il était toujours ponctuel et il encourageait les étudiants à être ponctuels. La plupart des missionnaires en Inde sont ses élèves et ils ont beaucoup profité de sa compagnie. Le défunt était très simple de nature, il était bref dans ses propos, il ne parlait pas beaucoup, mais il possédait aussi une grande connaissance et ses propos étaient toujours bien étayés. Le défunt a occupé le poste de vice-président de la Khuddamul Ahmadiyya de l'Inde. Il a aussi servi en tant que rédacteur en chef du journal Badr pendant 34 ans. Il a aussi servi en tant que rédacteur du journal Mishkat. Il était également membre du comité sur l'histoire de l'Ahmadiyya en Inde. Le défunt a travaillé sur la relecture de l'édition informatisée de la série Rouhani Khazain. Il a suggéré certaines corrections qui ont été faites à sa demande. Il était très méticuleux lors de ses relectures et de ses corrections. Certains ouvrages du Messie premier Islam ont été publiés séparément. Le défunt a travaillé sur la révision complète de ses épreuves, en particulier les ouvrages Brahni Ahmadiyya, Aryadharam et Sadbachan. Il a examiné la source originale et les références et les textes de Veda qui ont été cités par le Messie premier Islam, et il a souligné la différence dans la prononciation et dans la traduction de chaque mot. À chaque pas, il a poussé à sa perfection ses recherches et c'était là une de ses qualités notables. Le défunt a travaillé d'arrache-pied pour trouver les références des ouvrages Aryadharam et Sadbachan et il a travaillé sur leur révision. Il avait l'habitude de dire que ces ouvrages du Messie premier Islam sont des plus excellents pour les hindous et pour les sikhs. Ce sont deux ouvrages très importants par rapport à l'hindouisme et le sikhisme. Et c'est pour cette raison que ces ouvrages doivent être examinés très attentivement et les références devront être corrigées. Le Saint-Coran a été publié récemment avec notre nouvelle police de caractère, le Khat-e-Manzoor. Le défunt a également rendu de grands services pour le développement du logiciel. Un logiciel qui a été préparé par une entreprise de Mumbai en Inde. Le défunt a accompli un travail très important à cet égard. Il a travaillé nuit et jour sur la correction de ce texte et sur la précision de ce texte. Le Saint-Coran a été publié donc avec la police de caractère de Mansour. Et le défunt a également travaillé sur la traduction anglaise du Saint-Coran qui a été faite par Molvi Sher Ali et pour lequel on était en train d'utiliser la police de caractère de Mansour. Cette édition est presque complète, Inch'Allah, et le défunt accomplit un travail important à cet égard. Il avait également travaillé sur certaines parties de la traduction de Mir Ishaq Saeb. Il a également travaillé d'arrache-pied sur la publication du Saint-Coran, en particulier dans la publication de la version utilisant la police Khatem Mansour. Le Nazir Chat écrit ceci. « Le défunt était mon enseignant et il était aussi l'oncle maternel de ma femme. » Cependant, en tant qu'adjoint, il faisait toujours montre d'un esprit d'obéissance et d'une grande humilité à mon égard. Il n'a jamais dit que je suis ton enseignant et je suis plus âgé que toi dans nos liens de parenté. L'un des étudiants du défunt écrit ceci. Le défunt disait qu'il n'avait jamais pris de congé lorsqu'il étudiait à la Jamia durant ses études. Et lorsqu'il a commencé à enseigner à la Jamia, il n'avait jamais pris de congé. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt. La deuxième personne que j'évoquerai se nomme Syed Bashiruddin Ahmad Saeb. Il était missionnaire et il était également de Qadiane. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le petit-fils de Syed Sayyiduddin, qui était un compagnon du Messie premier, alayhi salam. Le défunt était un homme très pieux. Il accomplissait régulièrement la prière de Tarajjud. Il se consacrait aux prières. Il était simple. Il était moussi. Il laisse derrière lui trois fils qui travaillent tous les trois dans les bureaux de l'Anjuman. Le prochain défunt se nomme Basharat Ahmad Haider. Il était un Wakfi Zindagi, il était de Qadiane. Il était le fils de Faiz Ahmad Saheb Shana. Il est décédé à l'âge de 71 ans, quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le petit-fils de Hazrat Abdul Karim Saheb, qui a servi de signe en faveur du Messie premier d'Islam suite à la morsure d'un chien enragé. Il était originaire de Karnataka et il s'était rendu à Qadiane. Et après avoir étudié à la Madrasa Ahmadiyya, il a travaillé dans différents bureaux. Et ensuite, il a été nommé responsable du département Rishtanata. Il y a servi la Jamaat. Et en tout, il a servi pendant 46 ans. Malgré le manque de ressources, il a mené une vie très digne et simple. Le défunt était un homme d'une grande moralité et d'une grande vertu. Le défunt était un moussi. Il laisse derrière lui sa femme, trois filles à qui il a donné une très bonne éducation, et il les a toutes mariées à des Wakifin Zindagi. Le prochain défunt se nomme Dr. Mohamed Ali Khan, qui a servi comme amir de la Jamaat du district de Peshawar. Il est décédé le mois dernier à l'âge de 67 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait prêté le serment d'allégeance de son propre chef lorsqu'il était en FSI. Il raconte qu'il était assis un jour dans le magasin de son oncle. Une personne très digne est passée par là et s'en est allée. Quand il est parti, son oncle lui a dit « Sais-tu que c'est un Qadiani ?» Les Qadiani sont de très bonnes personnes. Le défunt déclare que c'était là sa première introduction à la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, à l'école de médecine, il avait un camarade de classe Ahmadi qui lui a demandé un jour s'il croyait que Jésus-Christ était vivant ou mort. Mohamed Ali, le défunt, a répondu que, selon lui, Jésus-Christ est décédé. l'étudiant Ahmadi a pensé qu'il devait lui prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il a donc emmené le défunt à la mission et il a présenté la Jamaat Ahmadiyya. À l'époque, Basharat Bashir Sindhi Sahib était le missionnaire. Quand le défunt a vu le missionnaire portant un pantalon et une chemise, il en était tout étonné. Il était étonné de voir la mode vestimentaire moderne de ce Maulvi. Basharat Bashir lui a offert l'ouvrage d'Awadul Amir. Le défunt a lu cet ouvrage et dès qu'il a terminé cet ouvrage, il était convaincu que l'Ahmadiyya était vrai. Il a fait la Bayra en 1973 et en 1974, fut le troisième calife à accepter son serment d'allégeance. Des émeutes anti-Ahmadi ont éclaté en 1974 lorsqu'il est devenu Ahmadi et il a été attrapé par des gens lors d'un rassemblement. Les élèves de son établissement lui ont demandé de rejeter l'Ahmadiyya. Ils avaient découvert qu'il était Ahmadi. Ils lui ont dit qu'ils allaient le tuer s'il n'abandonnait pas l'Ahmadiyya. L'administration de l'université n'a rien pu faire. À l'époque, le chancelier de l'université était Ali Khan, le fils de Bacha Khan. Il s'est présenté et il a pris le défunt sous son aile et il a emmené avec lui dans son véhicule. Ils sont sortis hors de la ville et il a laissé le défunt à l'extérieur de la ville. De là, le défunt est rentré dans son village en marchant à pied et il n'avait pas de chaussures. Il déclare que « Mon père m'a dit, pourquoi est-ce que tu te mets en difficulté? Pourquoi est-ce que tu nous diffames? Pourquoi ne pas abandonner l'Ahmadiyya ?» Le défunt a répondu qu'il ne pouvait pas abandonner l'Ahmadiyya. Il déclare que les débats ont continué avec mon père, mais je ne pouvais pas continuer mes études en raison du fait que la situation s'était aggravée. La situation était très difficile, mais j'étais déterminé à suivre l'Ahmadiyya. Un jour, mon père m'a dit « Mets fin à ce problème et quitte l'Ahmadiyya ». Le défunt a répondu « La seule situation est que vous devez ajouter du poison au repas que vous allez m'envoyer pour que je meure. Cela va résoudre votre problème. Quant à moi, je ne pourrai pas abandonner le Messie premier d'Islam et sa Jamaat. » Par la suite, jamais son père ne lui a demandé d'abandonner l'Ahmadiyya. Après le décès de son père, le défunt s'est présenté pour ses funérailles, mais il n'a pas accompli sa prière funéraire. Les gens ont dit que c'était contre les traditions tribales et ils ont exprimé une grande animosité à son égard en disant qu'il était un fils indigne pour avoir refusé d'accomplir la prière funéraire de son père. Le défunt a répondu que le Messie promet l'Islam était plus important pour lui. De la même manière, sa mère l'a très maltraité. Elle lui a dit que tu n'es pas mon fils et il a été déshérité. Le défunt n'est pas retourné dans son village après cela, mais il n'a cessé d'aider sa mère. Il se rendait chez son oncle paternel et de là, il prenait soin de sa mère et l'aidait financièrement. Et quand sa mère est décédée, il n'a pas accompli ses prières funéraires. De même, il avait converti un de ses frères cadets à l'Ahmadiyya. Celui-ci n'a pas accompli les prières funéraires de sa mère non plus. Et les gens les ont critiqués et les ont traités de fils indignes. Mais le défunt a déclaré qu'il était question de l'honneur de la Jamaat, étant donné que ces gens insultaient le Messie premier d'Islam, nous ne pouvons pas accomplir leurs prières funéraires. Il a donc démontré un très grand sens de l'honneur à l'égard de la communauté. Le défunt a servi pendant 27 ans au sein de l'armée et il a pris sa retraite au grade de lieutenant-colonel. Il était médecin et après sa retraite, il a reçu la médaille présidentielle de distinction militaire. Il a travaillé comme professeur adjoint à l'hôpital universitaire Nasir de Peshawar et comme chef du département de psychologie. À l'âge de 32 ans, il a été nommé par le 4e calife comme émir de la région frontalière et du district de Peshawar et président de la Jamaat de Peshawar. En 1985, il a été nommé membre du conseil d'administration du Waqf-e Jadid. Le défunt a conservé ce poste à vie Et il a également été membre du conseil d'administration du Waqf-e Jadid. Et il était aussi membre de la fondation Fazl-e Omar et membre de la fondation Tahir et membre permanent de la Shura. Son frère cadet est le colonel Ayoub. J'en ai fait mention. Il a également accepté l'Ahmadiyya et il avait épousé la fille de Shamsuddin Khan Saheb, qui était l'amir de la région frontalière du Pakistan. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et trois filles. Son fils est Waqf-e Zindagi et il est en train de servir avec Humanity First en Tanzanie. Il déclare que le docteur Mohamed Ali Khan s'était distingué par son attachement à la vérité, par son honnêteté, par son altruisme et son intégrité. Il ne faisait jamais mention d'argent, de dépenses et des biens mondains ou autre chose qui était liée à ce monde. Tous ses enfants ont écrit la même chose. Il ajoute qu'il a toujours vécu une vie qui était pleine de satisfaction, une vie qui était heureuse. Il a dirigé la Jamaat de Peshawar avec amour et en faisant confiance en l'aide de Dieu dans des circonstances très difficiles. Les habitants de Peshawar sont profondément attristés par sa mort. Il avait un grand amour pour le califat. Il faisait preuve d'une obéissance exemplaire à l'égard du califat. Il avait un grand amour pour le Messie premier l'Islam et le saint prophète, paix soit sur lui. Et il était toujours prêt à consentir à tout sacrifice pour défendre l'unicité de Dieu. Et il possédait de nombreuses autres qualités. Le prochain défunt dont je dirigerai la prière funéraire se nomme Mohamed Rafi Khan Shehzada de Rabwa. Il est décédé le 30 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait 82 ans. Il était le petit-fils de Hazrat Ghulam Rasulullah Afghani et d'Aisha Patrani et l'arrière-petit-fils de Hazrat Abdussattar Khan, qui était une personnalité célèbre de la communauté. Le défunt était régulier dans ses actes d'adoration et il accomplissait la prière de Tahajjud depuis sa jeunesse. Il avait un sens de l'honneur pour la religion, il avait un grand zèle à l'égard de la religion, c'était une personne très pure. Durant ses derniers jours et au cours de sa dernière maladie, il récitait le Saint-Coran à voix haute en dépit des difficultés à respirer. Il avait été recruté dans l'armée de l'air d'Abu Dhabi. Et il avait déménagé là-bas pendant quelque temps. Un Molvi de l'Assemblée de l'armée de l'air avait dit que les Qadiani méritent d'être tués. Il s'est levé et avec beaucoup de courage, il a déclaré que je suis un Ahmadi, eh bien tuez-moi alors. Par la suite, il a démissionné de là-bas et il est retourné au Pakistan où il a ouvert une pharmacie. Et il a servi aussi en tant que président de la Jamaat de Darul Rahmat Sharqi Rajiki. Il a participé à environ 50 épisodes d'une émission en langue pashto sur la MTA. Il faisait preuve d'une grande compassion à l'égard de tout le monde et il se comportait tel un père à l'égard de ses voisins. Il aidait discrètement les autres. Il était aussi un moussi. Il laisse derrière lui son épouse, deux fils et quatre filles. Le prochain défunt dont j'évoquerai se nomme Ayaz Yunus Saheb de l'Australie. Il est décédé dans une inondation en Australie, dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était un serviteur dévoué de la communauté. Il avait dit au président de la Jamaat que si vous avez besoin de quelqu'un, faites appel à moi et je me présenterai aussitôt lorsque vous allez m'appeler. Il était toujours prêt à servir la communauté et il disait à tout le monde « Les portes de ma maison sont grandes ouvertes. Venez dès que vous avez besoin de quelque chose. » Il aidait tout le monde autant qu'il le pouvait. Il était encore jeune et il n'était pas encore marié. L'État australien accordait le visa à ses parents qui se trouvaient au Pakistan afin qu'ils puissent participer à ses funérailles. Et des représentants de l'État étaient présents pour ses funérailles. Le prochain défunt se nomme Tahir Ahmad Saib, fils de Mian Qurban Hussein. Il servait au sein de la Wakalat Mala Thalith de Rabwa et il était le père de Idris Ahmad Saib, qui est l'architecte qui a travaillé sur le projet d'Islamabad. Il était âgé de 77 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était secrétaire de la tarbiya de la Jamaat locale. Il a servi en tant que vice-président Isaïm Ansarullah. Il accomplissait régulièrement ses prières de tahajjud et ses nawafil. Il récitait régulièrement le Saint-Coran et il était membre du système d'Al-Wassiya. Il laisse derrière lui deux filles et trois fils et son épouse. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Rafiq Aftab du Royaume-Uni. Il était le père de Farouk Aftab. Il est décédé au cours du mois d'avril dernier, à l'âge de 63 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur Farouk déclare que mon père possédait de nombreuses qualités. Il était humble, pieux. Il était toujours en contact avec tout le monde. C'était quelqu'un de jovial et de respectable. Il était très hospitalier, il respectait les autres. De nombreuses personnes nous ont appelés pour nous dire la même chose et ont témoigné de ses qualités. C'était quelqu'un qui était très sincère et dévoué. Et il a toujours encouragé ses enfants à rester attachés au califat. Et c'est grâce à ses efforts que ses enfants sont en train de servir la communauté aujourd'hui. La prochaine défunte se nomme Zarina Akhtar Saheba, épouse de Niza Nasir Ahmad Chittimasi, qui enseigne à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Elle est décédée le mois dernier, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était une des descendantes des compagnons du Messie premier d'Islam. C'était une personne très patiente et reconnaissante qui a pu servir ses parents et ses beaux-parents. Elle a fait preuve d'une grande fidélité en tant qu'épouse d'un Waqfi Zindagi. Elle s'est contentée de sa situation. Elle a résidé au Ghana avec son époux et en dépit des circonstances économiques très difficiles, elle a passé cette période difficile avec ses enfants en faisant preuve d'une grande patience et elle ne s'était jamais plainte. Elle est Moussia, un de ses fils est un Waqfi Zindagi et il travaille au sein de la MTA. Il s'agit de Mirza Taqir Ahmad. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Hafiz Mohamed Akram, qui est décédé au cours de ce mois à l'âge de 80 ans à la Tahir Heart Institute. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire du premier calife et par la suite, son grand-père a prêté le serment d'allégeance par écrit au Messie premier d'Islam. Il n'avait pas pu prêter le serment d'allégeance directement sur les mains du Messie premier d'Islam. Il l'avait fait par écrit. L'un des petits-fils du défunt se nomme Abdul Khabir Rizwan et il est en train de servir au sein du bureau du secrétaire privé au Royaume-Uni. Le défunt avait proposé de servir la Jamaat et lorsque sa requête a été envoyée à Mohamed Ahmad Mazhar, l'ancien amir du district de Faisalabad, il lui a dit que si vous souhaitez servir la religion, eh bien, servez à mes côtés. Et le défunt a servi au sein de la Jamaat de Faisalabad tout au long de sa vie. Et il a toujours préféré la foi à ce monde. Il s'est considéré comme une personne dédiée. Il était moussi et il avait réglé sa hissa jaydad au cours de son vivant. Il accomplissait régulièrement la prière de tahajjud et il a pu enseigner le Saint-Coran à de nombreux enfants et il a pu les aider à mémoriser le Saint-Coran. Il a pu faire mémoriser le Saint-Coran à son fils Kadi aussi. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Nur Ahmad Nazir qui est décédé à l'âge de 82 ans ces jours derniers. Il était le fils aîné de Chaudhry Mohamed Abdullah qui était un darvish de Qadian. Par la grâce de Dieu, les deux fils du défunt ont dédié leur vie. L'un est directeur d'une école de la communauté au Liberia et l'autre qui se nomme Mansour Ahmad Muzaffer. Il est en train de servir la communauté au Ghana en tant que missionnaire. Ces deux fils n'ont pas pu se rendre aux funérailles de leur père en raison de leurs activités respectives. Le défunt était membre du système d'Al-Wasiya. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mahmoud Ahmad Minhas, fils de Hakim Obaidullah Minhas. Il est décédé à l'âge de 75 ans le mois dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Rachid Mahmoud Minhas, qui est missionnaire. Il déclare que le défunt possédait de grandes qualités. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud, il était dévoué au califat et il aidait les personnes pauvres et ceux en difficulté. Son fils n'a pas pu se rendre pour ses funérailles en raison du fait qu'il était en train de servir au Ghana. Un autre de ses fils se trouve en Malaisie et il n'a pas pu participer à ses prières funéraires. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux enfants et aux proches des défunts, qu'il exalte leur rang, qu'il leur accorde son pardon et sa miséricorde. Je dirigerai la prière funéraire après la prière de Jumma, Inch'Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'khiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر